grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Manuel Valls, Premier ministre. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour Olivier Mazerolle.
Avec Christophe Jacobicine de LCI, Alexis Brézet du Figaro.
Bonjour.
Nous avons beaucoup de questions à vous poser, avec en tout premier lieu cette question toute simple. François Hollande peut-il encore être candidat à la présidence de la République ? Son discours salvagram n'a pas eu la portée attendue. Les sondages sont toujours en chute libre. Il est menacé dans la primaire socialiste d'après les sondages par Arnaud Montebourg. Pour la présidentielle, il serait devancé au premier tour par Emmanuel Macron. Les députés socialistes favorables au gouvernement sont déprimés. Ils ont le sentiment que les gens ne les écoutent plus. Et puis surtout, il y a les chiffres du chômage en août, plus 52 400 demandeurs d'emploi. Et voici ce que François Hollande disait très précisément sur TF1 le 8 novembre 2014, quand il était interrogé sur le chômage.
Ni l'optimisme et l'aveuglement. La volonté, c'est de vouloir faire baisser le chômage. Et je l'ai dit moi-même, si je n'y parvenais pas à la fin de mon mandat, je pensais que j'irais devant les Français en leur disant, voilà, je n'y suis pas arrivé pendant 5 ans, mais je vous promets, les 5 prochaines années, je vais y parvenir. Ça ne marche pas comme ça. Et les Français seraient implacables et ils auraient raison.
Alors quand on entend ça, on se dit, ben, François Hollande n'est pas candidat à l'élection présidentielle. C'est la bonne interprétation ?
Et moi, je vais vous donner mon état d'esprit. Moi, je ne mise pas sur l'empêchement du président de la République, ni sur la défaite de la gauche, parce que, à vous écouter, je me demande bien pourquoi vous avez eu la gentillesse de m'inviter. Sinon
pour connaître votre avis sur la question.
Et pour commenter les commentaires. La politique, Olivier Mazerolle, c'est une affaire de conviction. Ça n'est pas une affaire de sondage. Et je suis venu ici peut-être un peu pour casser la baraque.
Mais le chômage, c'est de la conviction.
Olivier Mazerolle, je suis venu ici peut-être pour casser la baraque. Parce que j'en ai assez, et ça suffit, au fond que vous choisissiez, pas vous, mais qu'on choisisse à la place des Français. L'élection présidentielle, elle est en avril et en mai. Et je pourrais reprendre d'ailleurs le beau discours de Philippe Séguin, il y a quelques années, en 1994, à l'occasion d'un grand meeting en faveur de Jacques Chirac, et j'ai une pensée bien sûr pour l'ancien président de la République aujourd'hui, qui consistait à dire, allez, circulez, il n'y a rien à voir. La primaire, la vraie, l'élection présidentielle, c'est la primaire de la droite. D'ailleurs, les électeurs de gauche, il faut qu'ils aillent voter à la primaire de la droite pour choisir Alain Juppé, parce qu'ils ne seraient pas contents de François Hollande.
Donc,
il faut choisir. Ça y est, tout est fait. La primaire de la gauche, elle est déjà décidée. L'élection présidentielle, elle se fera entre le candidat de la droite et le candidat de l'extrême droite.
François Hollande dire « si je ne réussis pas sur le chômage, les Français seront implacables », ça, c'est pas du commentaire, c'est lui qui le disait, c'était son pronostic.
Que mon état d'esprit, à partir du moment où la politique, c'est une affaire de conviction, je veux, c'est mon rôle, comme chef du gouvernement, comme chef de la majorité, c'est défendre le bilan de ce quinquennat.
Le bilan de mon action, y compris en matière de chômage.
Je vais y revenir. Le bilan de mon action à la tête du gouvernement, pour la compétitivité des entreprises. Rappelez que nous avons créé depuis un an 125 000 emplois, que les chiffres du mois d'août en matière de chômage n'étaient pas bons. Ils ont sans doute des explications statistiques, ils ont sans doute des explications liées à la situation difficile, notamment dans le domaine du tourisme, après les attentats, mais ce qui compte pour moi, c'est la durée. Et nous aurons l'occasion de le juger encore à la fin de l'année. Je défendrai le bilan en faveur de l'école, redevenue la première priorité de la nation. Je défendrai mon bilan pour ce qui concerne la sécurité des Français. Et je vais même vous dire, si j'étais à la place du président de la République aujourd'hui, ou si c'était à lui de vous répondre, je dirais la chose suivante. Je suis fier, comme président de la République, d'avoir sauvé le Mali, grâce à l'intervention des forces armées françaises. Je suis fier d'avoir permis à la Grèce de rester dans la zone euro.
Et vous comprenez...
Je suis fier de ce peuple français qui a manifesté sa résilience et sa capacité de résistance le 11 janvier 2014 et après 2015, pardon, et après
et donc
tous les attentats.
Je suis fier
d'avoir engagé la France sur la voie de la compétitivité et notamment dans le secteur industriel. Nous avons retrouvé un coût du travail équivalent voire meilleur que celui de l'Allemagne. Je suis fier d'avoir en effet permis à l'école de redevenir la première priorité de la nation. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'en ai assez, non seulement des commentaires, mais ça c'est votre rôle, mais de cette gauche honteuse d'assumer les responsabilités du gouvernement dans un moment particulièrement difficile. Donc il est temps, Alexis Brézé, de sonner l'alarme, de dire que ça suffit d'être déprimé, que ça suffit d'être honteux. Gouverner la France, je l'éprouve tous les jours, c'est une immense fierté. Nous réformons, nous avons créé 12 grandes régions, nous y reviendrons, nous avons décentralisé, nous continuerons à réformer jusqu'au bout.
Vous dites, si j'étais François Hollande, voilà ce que je dirais. Si vous étiez François Hollande, vous diriez, je suis candidat. Parce que lui, il n'a pas l'air de tellement y croire. Quand on voit les propos rapportés ce matin par le JDD, il me dit, bien sûr, il y a un doute. Si j'y vais, c'est pour gagner, c'est pas pour figurer. Est-ce qu'il y croit? Vous en parlez avec lui de
bien
ça?
Bien sûr, régulièrement, mais cette décision, elle lui appartient. C'est lui, je veux le rappeler, qui a été élu par les Français en 2012. C'est une décision intime, personnel, dans son rapport avec
les
Français.
Mais vous lui dites, il faut qu'il soit candidat. Il faut que tu sois candidat.
Bien sûr, et il fera référence.
Vous le lui dites, vous lui conseillez d'être candidat.
Ce que je lui dis, ça me regarde.
Oui, mais...
Et encore une fois, c'est à lui de se déterminer.
Mais quand il dit « si j'y vais, c'est pour gagner », ça veut dire qu'a priori, il n'ira pas s'il pense qu'il ne gagnera
mais
pas.
Parce que je pense qu'on peut gagner, à condition de défendre le bilan. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs. Bien sûr, il y a eu des manques. Bien sûr qu'il y a eu des échecs. Mais enfin,
c'est la meilleure chance de la gauche pour gagner, François Hollande.
Il est le président de la République sortant. Donc c'est à lui de décider de cette candidature.
Mais est-ce qu'il peut faire gagner la gauche? Vous dites qu'il faut arrêter de dire qu'on va perdre.
Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il le dira aux Français. C'est la date qu'il s'est donnée. C'est le rendez-vous qu'il a donné aux Français au mois de décembre.
Mais justement, donc, mettre Olivier fin Mazzarol, à toutes ces polémiques, ces incertitudes, etc., est-ce qu'il ne faut pas qu'il dise maintenant, voilà, je suis candidat, et puis au moins, c'est fait.
Il a fixé un rendez-vous aux Français au mois de décembre.
Donc les commentaires vont continuer.
Pour défendre le bilan, et lui, le gouvernement, la majorité, pour l'assumer, assumer le social-réformisme, assumer le soutien aux entreprises, la priorité à l'innovation, assumer de gouverner dans un monde difficile, mais en même temps avec ses opportunités.
Donc, à vous entendre, s'il y va, c'est vous qui défendrez son bilan, puisque vous êtes son meilleur avocat, là, aujourd'hui.
Défendre le bilan, assumer ce que nous avons engagé, ce plan économique, dans le domaine de la sécurité, puisque nous avons donné plus de moyens à nos forces de sécurité, dans la maîtrise de l'immigration.
Donc vous jouerez un rôle essentiel dans sa campagne.
Dire aussi qu'il ne veut pas, que je ne veux pas, si je me mets à sa
place.
Vous
êtes général en chef de la campagne ?
Que je ne veux pas que la France et son modèle républicain et social soient abîmés par la droite. Qu'il ne veut pas, et nous en parlerons, que la France soit défigurée par l'extrême droite. Et bien sûr, parce que je pense qu'il se pose cette question, c'est de donner un sens à un nouveau quinquennat. Pourquoi il faudrait un nouveau quinquennat de gauche pour la France.
C'est quoi votre réponse
c'est ce
à
sens.
Vous,
eh bien,
là-dessus
c'est d'abord,
est-ce qu'il
effet,
a su donner du sens au premier? Et comment pourrait-il donner du sens au second?
Je rappelle, et c'est l'un des problèmes de la gauche, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup les téléspectateurs et les auditeurs qui sont avec nous ce midi, le problème de la gauche en France, c'est qu'elle gouverne 5 ans, et puis parce qu'elle n'assume pas ce qu'elle fait, parce qu'elle n'assume pas les réformes qu'elle a engagées, parce qu'elle se divise, parce que gouverner c'est difficile, parce que souvent une partie de la gauche est mieux dans l'opposition, parce que nous gouvernons dans des moments difficiles, souvent, et c'est parce que c'est difficile qu'on nous demande
de gouverner. C'est pas plutôt parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle a promis quand elle a été élue ?
À ce moment-là, vient le temps du doute, des gens désabusés qui n'y croient plus. Eh bien, ce que je veux vous dire ce matin, et moi j'y prendrai ma part, je suis chef du gouvernement.
Donc vous serez chef de la campagne ?
Je suis chef du gouvernement, je suis le premier de cordée, je suis Premier ministre, je veux défendre ce bilan, le valoriser, et je veux que la gauche continue de gouverner, parce que je considère que le programme de la droite, que ce soit celui de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé, ou de François Fillon, ou de Bruno Le Maire, est brutal pour notre pays, et parce que je veux mener la bataille d'abord,
tout le même, monsieur le Premier ministre.
Et parce qu'enfin, Olivier Mazzarol, il faudra. Parce que, vous savez, moi je suis engagé à gauche et au Parti Socialiste, je l'ai fait pour Michel Rocard, il y a plus de 30 ans, je devrais dire d'ailleurs plus de 35 ans. Et on s'interroge toujours, c'est quoi la gauche, notamment en France? La gauche, c'est une morale, bien sûr, mais c'est d'abord une espérance. Il faut redonner de l'espérance aux Français dans une mondialisation dont les effets sont là.
Criant. Mais vous avez eu 4 ans pour ça. 4 ans, vous aviez tous les pouvoirs.
Il faut donner
au départ
de l'espérance à les Français.
Assemblée nationale, Sénat, région, président de la République.
Il faut donner de l'espérance, je vais jusqu'au bout, à des Français qui ont peur. Peur du terrorisme, peur du déclassement, peur pour l'avenir. Et je continue de penser que dans ce monde, avec ses bouleversements et ses opportunités, avec ses dangers mais aussi ses possibilités, c'est la gauche républicaine,
mais
et à condition qu'elle incarne cette république.
Que dites-vous aux Français qui ont du mal à le croire aujourd'hui pour qu'ils puissent le croire que la gauche est la bonne réponse pour les 5 ans qui viennent?
Mais parce que nous rentrons dans un moment où il faut faire le point sur le bilan, il faut comparer avec ce que proposent les autres, à droite ou à l'extrême droite.
Ça sera une campagne de comparaison, et ça sera si on s'en va, vous aurez la droite. Mais pas une campagne positive sur si on reste, voilà ce qu'on fera.
Ah non. Je pense que trop souvent, on a gagné par défaut dans ce pays. Que nous-mêmes, peut-être, avons gagné sur l'anti-sargosisme en 2012.
Là, vous dites que ça ne suffira pas.
Ça ne suffit pas, bien évidemment. Donc, il y a le bilan, la comparaison, dire évidemment que nous ne voulons pas que la France soit abîmée par la droite ou défigurée par l'extrême droite.
Et l'espérance.
Mais redonner, bien sûr, une espérance.
Et vous croyez
redonner
vraiment que
de l'enthousiasme, notamment à la jeunesse, mais pas seulement
pour que la gauche
à ce pays
puisse regagner en 2017, vous croyez vraiment que c'est François Hollande le meilleur candidat?
Il est le président de la République.
Mais vous ne répondez pas. Tout à l'heure, quand on vous a demandé est-ce que vous lui conseillez d'être candidat,
Mais je suis chef du gouvernement, je ne suis pas dans un rôle de conseil. Mais écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'étais même de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas de primaire à gauche si le président de la République sortant était candidat. Mais je respecte pleinement sa décision. C'est à lui de le décider. Que ses amis, que le Premier ministre,
le Premier ministre,
parlementaires lui disent, il faut, monsieur le président de la République, que vous soyez candidat, il faut que tu sois candidat, bien évidemment.
Vous posez vous-même la question. Il semble que vous posiez vous-même la question, pardon, c'est ma question. Mais hier soir, vous avez une réunion avec vos amis, une cinquantaine de parlementaires et responsables de la gauche, et vous vous êtes poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire dans les semaines qui viennent? Est-ce que véritablement François Hollande, c'est le bon candidat? Vous-même, vous avez une interrogation à cet égard.
Non, nous sommes posés une question à laquelle je vais répondre, en effet. Que faut-il faire dans ces 2 mois, dans ces semaines, pendant qu'il y a la primaire de la droite, qu'il faut respecter, parce que c'est un moment démocratique.
Et d'absence de candidat
à gauche.
Et avant
que François Hollande ne dise aux Français s'il est candidat. Et
vous êtes aussi demandé, s'il n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait?
Non.
Vous ne vous êtes pas demandé ça?
Mais cette question, elle est posée, mais de toute façon, y répondre, c'est précisément participer de ce jeu. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que dans les 2 mois qui viennent, nous soyons sur la défense du bilan, la comparaison avec la droite, et ouvrir, comme je l'ai fait, de nouveaux chantiers. Je l'ai fait sur la décentralisation, sur l'école, parce qu'il faut lutter davantage contre les inégalités, ou sur la belle idée, cette utopie concrète que je défends, du revenu universel. Parmi d'autres, voilà les chantiers qu'il faut ouvrir. Et donc moi, vous savez, je suis à la fois grave, parce que je connais les dangers qui guettent mon pays, la menace terroriste, mais aussi la montée de l'extrême droite, la montée du populisme en Europe, outre-Atlantique, ne l'oublions pas, avec l'élection américaine, en Europe et bien sûr en France. Donc cette gravité, elle pèse sur mes épaules, mais je suis de tempérament optimiste.
Mais
vous savez,
réunion d'hier soir veut dire que vous ne pouvez pas vous permettre de ne rien faire, de ne pas vous préparer à être candidat pendant 2 mois et d'attendre paisiblement que le chef de l'État décide. Vous êtes obligé de vous préparer aussi à cette hypothèse.
Il n'y a rien de paisible dans mes fonctions. Mais j'ai une autre conviction, au-delà de celle que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire. C'est que l'élection présidentielle, ça n'est pas un programme. C'est un dessein. C'est un dessein pour le destin de la France. Et peut-être, vous avez un peu d'expérience les uns et les autres, vous l'avez déjà entendu pour d'autres élections présidentielles, mais quand on nous promet, quand on prévoit que l'extrême droite serait à coup sûr au deuxième tour de l'élection présidentielle, avec des niveaux de 30%, je me méfie des sondages, je vous le disais tout à l'heure, mais il n'y a pas eu seulement les sondages, il y a aussi les scores aux élections européennes ou régionales. Si on nous promet cela, mais alors ça veut dire qu'il faut être à la hauteur du moment, créer cette espérance, Bien sûr, la gauche doit,
ça vous interroge
bien,
aussi, ça.
Bien sûr, la gauche et les écologistes doivent se rassembler comme ils le sont au sein.
N'ayez pas peur, posez votre question.
Mais je pense que plus que jamais, ce qu'attend ce pays, qui parfois déprime, qui se regarde lui-même, alors que de l'extérieur, et je me déplace souvent, on salue la cinquième puissance économique mondiale, on salue le rôle de nos armées, de notre diplomatie, on salue notre industrie, notre agriculture, on salue notre langue et notre culture, on salue la résilience, bon sang, du peuple français. Chez nous, tout va mal. Chez nous, on déprime,
ça,
on a... et notamment à gauche.
Non,
donc,
ça, on a compris.
Donc moi, je sonne la mobilisation.
Eh bien, justement.
Donc, tous les jours, comme chef du gouvernement, je m'engagerai. Toutes les semaines, je mènerai une réunion publique. Je viendrai régulièrement sur les médias parce que c'est mon rôle de défendre son bilan, celle de la gauche du gouvernement, celle de la gauche social-réformiste, celle de la gauche qui n'est pas honteuse, d'une gauche républicaine, ferme, généreuse, bienveillante.
Le message d'enthousiasme, vous l'avez passé, on l'a entendu.
Mais
au fond de vous, vous êtes bien obligé de vous préparer à tous les scénarios. Si il n'y va pas, est-ce qu'au fond de vous, vous vous dites, moi, Manuel Valls, j'y vais?
Mais si je réponds à cette question, je participe, comme beaucoup, à affaiblir le président de la République.
Ce que vous êtes en train de poser, c'est les bases d'un discours qui serait le vôtre.
N'y voyez aucune prétention, Premier ministre, c'est-à-dire le deuxième personnage de l'État. J'ai une expérience, ministre de l'Intérieur. Et l'été 2012, vous le savez, j'ai compris que nous allions affronter durablement un ennemi intérieur et extérieur. Et j'ai posé les mots qu'il fallait pour définir la menace, l'occasion du discours que j'ai eu à l'Assemblée nationale quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper
Cacher. Donc ça vous qualifie pour être candidat si François Hollande n'y va pas?
Je suis chef du gouvernement, j'ai été maire d'une grande ville. Et aujourd'hui, fort de cette expérience, je veux réveiller la gauche. Je veux réveiller la gauche et leur dire, soyez fiers de ce que vous avez engagé.
Mais
ne soyez pas
honteux, vous êtes le mieux
ne
placé
pas
pour
la
cela.
Et je suis.
Est-ce que vous êtes le mieux placé pour cela? Vous avez
pour être chef
dit,
du gouvernement,
ça, on en a assez de la gauche passéiste, de ce surmoi marxiste, de cette gauche qui est menacée par le sectarisme.
Dans c'est
le
fond, pas vous l'avez, qui parle, c'est vous. Hein.
C'était vous qui disiez ça. C'était à l'Observateur en 2014. Donc, vous l'avez brutalisé, cette gauche. Aujourd'hui, aussi bien Arnaud Montebourg que Benoît Hamon, Gérard Filoche et d'autres qui se préparent pour la primaire disent Manuel Valls, il est quand même un peu discrédité pour rassembler la gauche.
Je constate d'ailleurs que ceux deux, je crois, parmi ceux que vous avez cités, vous auriez d'ailleurs pu parler de Cécile Duflot.
Vous parlez de Filoche et Montebourg, c'est ça?
Ont été membres du gouvernement.
Ils ont démissionné des accords pour Montebourg, par exemple.
Je ne sais pas.
Et c'est choquant?
Je pense que dans ces moments-là, difficile pour le pays, mais parce que c'est difficile pour le monde, c'est difficile pour l'Europe, qui est menacée de dislocation, nous en parlerons, la tâche des socialistes, des hommes et des femmes de gauche, j'ose dire des hommes et des femmes d'État, c'est de gouverner.
Donc ils ne devraient pas être candidats.
C'est d'assumer les responsabilités. Moi, je salue par exemple le fait que Emma Coste, qui est avec nous, qui fait un formidable travail au logement, ait décidé de rejoindre le gouvernement.
Mais vous savez ce qu'on a dit à l'époque, on a dit elle est allée
pourquoi
à la soupe.
Pourquoi
voilà, elle voulait à tout prix être au gouvernement.
Oui, enfin, honnêtement, donc avec tous les commentaires que vous rappeliez il y a un instant, aller au gouvernement semble pratiquement une tâche impossible. Non. Parce que je pense que dans ces moments-là, il faut assumer les responsabilités. Disons-le franchement.
Donc vous accusez Macron d'abandon, de désertion.
De diviser.
De désertion d'abord.
Ben, je pense que dans ces moments-là, il faut rassembler. Toutes ces candidatures, d'abord.
Mais vous avez été candidat à une primaire. À l'époque, vous ne disiez pas que c'était divisé que de participer à la primaire.
On était d'abord dans un autre moment. Nous ne gouvernions pas. Et je pense que les choses ont changé, en effet.
Ah, s'il y a une primaire, c'est quand même
et
bien pour qu'il y ait des candidats contre Hollande.
On ne s'improvise pas dans ces moments-là, graves pour le monde, pour l'Europe et pour la France, je le répète, on ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle. On ne prépare pas, pardon de lire, et j'ai tout le respect pour le Parti Socialiste, le prochain congrès du Parti Socialiste.
C'est ce qu'ils font,
On ne prépare pas, on n'est pas en train d'anticiper la défaite à l'élection présidentielle pour préparer la suite. La situation est trop grave. Notre responsabilité est trop importante.
Alors, il ne faut pas de primaire.
C'est engagé.
Vous n'étiez pas pour, mais enfin, maintenant, il y en a une. C'est normal qu'il y ait des candidats.
Et là, je la respecte. Mais chacun en conscience compris il y a ceux qui ont décidé de dire que la primaire ne serait pas leur choix, mais en conscience, je pense que chacun doit s'interroger sur la gravité du moment et sur le rôle. Puis-je gagner l'élection présidentielle ? Alors, est-ce que ma candidature ne va-t-elle pas diviser davantage et empêcher la présence de la gauche au deuxième tour ? Que chacun se pose
Christophe
ces questions.
Christophe Jacobusine, si envie de prononcer un nom qu'on n'a pas encore cité depuis
c'est
le début
pas un gros mot,
de l'émission,
Emmanuel Macron.
Celui d'Emmanuel Macron.
Et si
allez-y.
Le président de la République Christophe. Décide d'être candidat, à ce moment-là, le rassemblement de tous les socialistes, de tous ceux qui assument les responsabilités du gouvernement, de tous ceux qui veulent que la gauche gouverne dans la durée, à ce moment-là, le rassemblement devra se faire autour du chef de l'État. Et ça, je le pense profondément.
Est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron n'empêche pas justement ce rassemblement, puisque sa candidature prend dans l'opinion, ça frémit, on verra jusqu'où ça ira, mais en tout cas, ça fonctionne aujourd'hui. Est-ce que ça ne condamne pas, justement, encore une fois, François Hollande à ne pas y aller ?
Emmanuel Macron a été le collaborateur de François Hollande.
Votre ministre aussi.
Secrétaire général adjoint de l'Élysée, a participé à l'élaboration de notre politique économique et des changements que nous avons apportés.
Il est responsable de la situation économique pas très bonne du pays aujourd'hui,
ministre
si ça vous dites.
De l'économie, mais il y a heureusement des choses qui vont aussi dans le bon sens. Et puis, vous savez, nous allons vivre, mais ça c'est un autre débat, hein, avec un niveau de croissance faible dans nos sociétés européennes dans les années qui viennent. Donc, ça veut dire qu'il faut faire davantage pour la formation, la qualification des salariés, le lien entre l'offre ou la demande des
Juppé dit
des,
que Macron n'est ni compétent ni loyal. Vous dites quoi, vous ?
Je n'aime pas le sectarisme. Je n'aime pas ces
phrases. Vous dites qu'il est compétent et loyal ?
Ça a été un bon ministre.
En revanche, Emmanuel Macron ?
Ça a été un bon ministre et j'ai défendu son action, j'ai défendu la loi, j'ai même dû engager la loi
il
Macron.
Il est loyal ?
La responsabilité. Ah, la question de la loyauté, c'est autre chose. C'est autre chose. La loyauté, pour moi, c'est une valeur. C'est un engagement d'une vie. J'ai été loyal. D'abord à Michel Rocard, à ses idées, à Lionel Jospin, parce que j'ai travaillé avec lui.
Pour je vous, suis la loyal loyauté disqualifie avec,
je suis,
un homme politique.
Je suis loyal avec François Hollande, parce qu'il a gagné l'élection présidentielle, j'y ai contribué, parce que j'ai été son ministre et il m'a nommé Premier ministre.
Macron,
la loyauté, c'est
Macron
essentiel. On ne peut pas trahir. On ne peut pas être déloyal. C'est ma conception de la vie politique. Mais je ne le dis pas uniquement. Moi, je suis loyal au président de la République. D'abord parce que c'est ma vision des institutions. C'est ma vision de la politique. Mais je suis d'abord loyal aux Français. Vous vous rendez compte ? Le spectacle que l'on donne quand on gouverne, et pour des raisons personnelles, on quitte l'action gouvernementale pour préparer une autre étape.
Macron,
non,
quand même,
ça n'est pas possible.
Il semble qu'il y ait quelque chose qui vous oppose à lui ou qui, lui, s'oppose à vous sur ce qu'il appelle la laïcité revancharde. Il a parlé de ça cette semaine dans l'hebdomadaire Marianne. Il dit qu'il est contre l'interdiction du voile à l'université, alors que vous, vous vous êtes posé la question. Vous avez dit, il y a certainement un problème constitutionnel, etc. Mais en tout cas, c'est un problème qui se pose. Et il dit, cette laïcité revancharde pousse un certain nombre de citoyens français on les met à l'écart avec ça. Parce que du coup, si on ne veut plus les accepter dans les lieux publics, alors ils vont se réfugier dans des lieux confessionnels et ils deviennent peut-être dangereux pour la République.
D'abord, je veux rappeler que mon ennemi, mon adversaire, c'est le Front National. Et j'y reviendrai.
C'est pas la finance.
Oui, mais quand une formation comme l'extrême droite dit qu'elle parle au nom du peuple et qu'elle ferme une des plus anciennes associations, le local, une des plus anciennes associations, le Secours Populaire.
À Ayange.
À Ayange, dans une de ces villes, ça donne bien, au fond, ça démontre bien quel est le vrai visage cynique, antipopulaire, qui méprise les
petits gens
et les pauvres.
Mais est-ce que vous avez la laïcité revancharde ?
Emmanuel Macron a un vrai talent. Il est jeune. Il a servi le gouvernement de la France. Beaucoup de gens peuvent se reconnaître en lui, c'est-à-dire dans quelqu'un qui incarne une forme d'optimisme. Mais j'ai deux désaccords avec lui. D'abord, ce que j'appelais une forme de populisme light, c'est-à-dire la mise en cause des corps intermédiaires, des élus, des formations politiques. Et puis l'autre, c'est sur la laïcité. Parce que là, on est au cœur de ce qu'est la République et de ce qu'est la gauche. Dire que la laïcité est revancharde et qu'elle est même une arme contre les monothéismes, je le dis très simplement, très calmement, c'est ne rien comprendre à l'essence même de la laïcité, qui a permis précisément dans ce pays à chacun de croire et de ne pas croire. Et c'est ne rien comprendre à la réalité du terrain. Et c'est l'ancien maire d'Evry qui vous parle. C'est une profonde déconnexion, méconnaissance indifférence de ce qu'est vraiment la laïcité dans notre pays. Je n'ai pas besoin de mettre un adjectif à la laïcité.
Ce que dit Emmanuel Macron,
elle
n'est
comme... ni ouverte ni revancharde. C'est la laïcité qui permet dans ce pays de croire et de ne pas croire et à laquelle les Français sont très attachés. Et présenter cette vision de la laïcité, c'est une vision anglo-saxonne, libéral, libertaire, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec notre pays.
Il n'y a pas
de
communautarisme.
C'est croire que la France serait une addition de communautés,
mais
en effet.
Gauche aussi,
et ça,
à gauche
ça
aussi,
n'est pas
on
la
dit
France.
Ça. Pas seulement Emmanuel Macron, à gauche de vous, on dit que effectivement cette laïcité un peu agressive, raide, renforce le sentiment de le communautarisme.
La laïcité, c'est la France. Donc mettre en cause la laïcité, lui affublie je ne sais quel adjectif, c'est la mettre en cause. Moi, je pense que la laïcité, elle nous permet de vivre ensemble, qu'elle est profondément généreuse, que c'est la séparation, évidemment, de l'État avec les cultes, que ça permet aussi aux gens de croire ou de ne pas croire, mais également aux cultes, et nous le voyons puisque nous les protégeons. Vous savez, maire d'Evry, j'ai défendu, et aujourd'hui, c'est Francis Choix qui m'a succédé, nous défendons une conception de la laïcité ferme et généreuse, et en même temps, nous saluons le fait que dans cette ville, il y ait la seule grande cathédrale construite au XXe siècle, une belle et grande mosquée à Évry-Courcouronnes, une pagode, une synagogue, des temples.
Donc Macron se trompe. Macron se trompe.
Il se trompe sur ce qu'est la laïcité et se trompe plus profondément sur ce qu'est la France.
On va marquer une pause, monsieur le Premier ministre, pour les informations de 13 heures, et puis on parlera d'économie.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Manuel Valls, Premier ministre. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Monsieur le Premier ministre, avec d'autres questions toujours posées par Alexis Brezet du Figaro et Christophe Jacubicine de LCI. Moi, je voudrais vous rappeler une phrase de Lionel Jospin qui lui avait coûté cher, « L'État ne peut pas tout ». Et voilà qu'on se remémore cette phrase à l'occasion de la fermeture potentielle de l'usine d'Alstom. Où on en est ?
Ce que je peux vous dire, c'est que l'activité ferroviaire à Belfort sera maintenue et que le site sera
c'est
sauvé.
Sûr.
À quel prix, les commandes publiques,
hein ? J'en suis convaincu. Nous présenterons dans les prochains jours, et Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie, depuis quelques semaines, qui est avec nous, compétent,
il
engagé,
y va mardi. Il
qui
y
connaît
va
bien ces dossiers, sera en effet à Belfort mardi prochain, mais... Lui, Alain Vidalis, Michel Sapin, bien évidemment, moi-même, nous suivons avec le président de la République ce dossier depuis plusieurs semaines. Et nous présenterons donc des solutions dans les prochains jours avec un objectif clair, maintenir les compétences et le savoir-faire de notre industrie ferroviaire sur notre territoire.
Mais qui paye le contribuable à travers les commandes publiques de la SNCF ? Ça va se passer comment ?
Mais il y a déjà des commandes
publiques. Oui, mais il y en aura davantage, puisque aujourd'hui, le management de l'entreprise nous dit qu'ils ne peuvent pas continuer l'activité. Mais demain, ils peuvent, c'est qu'il y a eu des commandes entre-temps.
Vous vivez dans une vraie schizophrénie, mais je comprends votre métier. Voilà, Olivier Mazerolle qui cite la phrase de Lionel Jospin à propos de Michelin. L'État ne peut pas tout, ce qui, honnêtement, est vrai. Mais il peut beaucoup.
Mais ça sera vrai sur Alstom.
Mais vous savez, j'ai visité il y a quelques jours, côté du maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, le nouveau site dédié à l'innovation de Michelin. Et je pourrais dire la même chose pour Renault ou PSA. C'est grâce aux accords de compétitivité. C'est grâce au crédit impôt recherche. C'est grâce à l'innovation et à la recherche que ces grandes entreprises, et grâce au rôle de l'État, parfois actionnaire, c'est le cas à Renault, jouant son rôle, c'est le cas à PSA, Citroën.
Alstom, ils n'ont rien vu, les représentants de l'État.
C'est le cas à Alstom.
Donc il suffisait de hausser la voix, pas de commander davantage de matériel.
Non, il aurait fallu que le PDG de Alstom joue les choses différemment.
Il leur a menti ? Il leur a caché des choses ? Aux actionnaires.
J'ai déjà eu l'occasion de dire que ça n'était pas la bonne méthode que d'agir ainsi. Pourquoi ? Parce que nous savions tous qu'Alstom avait une passe difficile à surmonter, un creux de charge pour dire les choses différemment. Nous aurons toujours besoin de trains, il y a des renouvellements, il y a en même temps des marchés, et il faut respecter ces marchés. Il y aura dans les années 2020 une vague de renouvellement particulièrement importante, donc attendons Christophe Sirugue aille mardi prochain
pardon,
à Belfort.
Pardon, il y a une contradiction fondamentale. Pardon, non, excusez-moi. Si, il y a une contradiction fondamentale. Vous allez voir tout de suite
laquelle. Vous allez voir tout de suite
laquelle. La SNCF, c'est une entreprise publique. On lui demande d'équilibrer ses comptes. Et elle dit, moi, je vais bien acheter des trains, mais là où c'est le moins cher, et c'est du moment qu'ils correspondent à ce que j'attends. Et ils ont trouvé des trains moins chers dans des pays étrangers, en Allemagne. Et là, maintenant, on va lui dire, ah, bah, il faut acheter chez Alstom, c'est plus cher.
Oui.
Comment on fait ?
Et donc, si on ne fait rien, on dira, l'État qui est actionnaire Alstom dans des conditions
c'est pas ça, mais c'est qu'on n'a pas compris
et qui a son rôle.
Si vous aviez donné plus d'argent, ou si simplement vous aviez haussé la voix, on n'a pas compris par quelle magie vous aviez réussi à ce que l'usine reste ouverte.
Je comprends que chacun vive au jour le jour, et notamment, je pense, ni à vous ni à moi, mais en l'occurrence aux salariés d'Alstom, à leurs familles, qui sont inquiets. Mardi, le secrétaire d'État à l'industrie proposera un certain nombre de pistes concrètes.
Il est là, on peut lui donner une micro, une minute, mais...
Non, je l'inviterai mardi ou mercredi matin, je n'en doute pas. Il y a à la fois, en effet,
Mercredi, on saura.
Il y a le rôle de la commande publique. Il y a les investissements que Alstom, Christophe Sirugue a déjà eu l'occasion de le rappeler, peut être amené à faire. Il y a l'avenir, c'est-à-dire le TGV du futur, le bus du futur. Je pourrais même dire, d'ailleurs, en passant, j'ai vu une petite information dans le journal du dimanche qui expliquait que j'avais passé une demi-heure au salon de l'automobile vendredi. J'y ai passé deux heures. Et pourquoi je dis cela ? Parce que c'est vrai pour ce qui concerne la voiture, avec la voiture autonome, la voiture électrique. C'est vrai pour ce qui concerne les bus et les trains. Il faut préparer.
Et on a vu que vous aviez démarré par PSA plutôt que chez Renault. C'est bien. Et
oui, parce que peut-être qu'il y avait une actualité. Mais parce que moi, je veux saluer le succès de PSA, de Citroën, de DS, comme je veux saluer aussi le succès de...
Alexis Bresson.
Oui, mais moi, je voulais être précis. Donc, nous sauverons le site d'Alstom à Belfort. Mais surtout, ce que nous voulons, c'est engager l'avenir de cette grande entreprise dans la durée.
Autre sujet, impôts, taxes. On sait que le ras-le-bol fiscal a coûté cher au gouvernement et à la majorité. Et voilà que pour régler le problème de l'assurance chômage, on dit que Myriam El Khomri réfléchit à une taxe sur les hauts salaires, d'une part, et puis à une surtaxe sur les contrats courts. Est-ce que vous confirmez ces deux mesures ?
L'assurance chômage est en déficit, d'abord, il faut le rappeler. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de risque en même temps, parce qu'il y a des chômeurs qui nous écoutent, qu'il n'y a pas de risque pour le paiement des indemnités chômage. Et la croissance, je crois, contribuera progressivement à réduire ce déficit, et le meilleur moyen d'ailleurs de réduire ce déficit, c'est de faire baisser le chômage. Ensuite, je rappelle que c'est de la responsabilité des partenaires sociaux, patronat et syndicats. C'est de leur responsabilité. Certains, pour des motifs différents, ont joué la montre, attendent peut-être les échéances du printemps prochain. Je vais y venir. Attendent les échéances de l'année prochaine, c'est irresponsable. Une solution négociée est toujours meilleure qu'une décision unilatérale est imposée. J'en appelle donc à la responsabilité des partenaires sociaux, mais évidemment, s'ils ne trouvent pas d'accord, le gouvernement devra reprendre la main et assurer ses responsabilités.
Ces deux pistes sont les bonnes ?
Je ne le souhaite pas, mais nous ne pourrons pas nous dérober.
Mais c'est avant la présidentielle ou pas ?
Bien sûr.
Mais c'est une bonne idée de déplafonner les cotisations chômage ?
J'y viens. Myriam El Khomri est en train de recevoir les partenaires sociaux. Toutes les solutions sont sur la table. Toutes les hypothèses sont discutées. J'envisage moi-même, avec la ministre du Travail, de réunir, après ce round, ce moment de discussion avec les partenaires sociaux, l'ensemble des partenaires sociaux, pour que chacun assume ses responsabilités.
En gros, c'est une menace, cette taxation des hauts revenus.
Il y a des pistes que j'exclus.
Celle-ci ?
Comme la taxation des plus hauts salaires.
Celle-là, elle est exclue ?
Je l'exclus.
D'accord.
Je l'exclus devant vous. Il y a des pistes sur lesquelles il faut travailler.
Les contrats courts ?
Il y a des pistes sur lesquelles il faut travailler. Car à partir d'un bon diagnostic, comme le recours excessif aux contrats très courts dans notre pays, il ne faut pas trouver de mauvaises réponses cependant qui dévaloriseraient le travail.
Parce qu'en 2014, on a essayé, ça n'a pas tellement marché, la taxation des contrats courts.
Par exemple, pour les seniors. Donc, nous examinons toutes les hypothèses, nous en écartons clairement une. L'autre, elle est examinée, mais je vous ai dit, elle n'est pas facile à mettre en œuvre. Nous les travaillerons, bien sûr, avec soin. nous réunirons les partenaires sociaux. Chacun, encore une fois,
devra assumer ses responsabilités. Et la décision définitive, pour quand, la date
butoir ? Dans les prochaines semaines, j'espère
avant la
que
fin
nous
de
pourrons avancer. Et toute décision devra être juste et responsable.
Et avant la fin de l'année.
Équilibrée. Avant la fin de l'année, devra être juste et responsable, comme nous l'avons fait déjà depuis plusieurs années, ce qui nous a permis, je veux le rappeler en passant, de mettre un terme et d'engager en tout cas la baisse du déficit du régime général de la sécurité.
Christophe Jacobici, le revenu universel peut-être.
Oui, tout à l'heure vous avez évoqué en première partie de l'émission le fait que nous nous installions dans une période peut-être de croissance réduite, en tout cas à long terme, et que donc il fallait peut-être réfléchir à d'autres mécanismes, notamment le revenu universel. C'est une idée d'ailleurs chère à Benoît Hamon, qui sera peut-être votre rival aux primaires, socialiste, on verra.
Lesquels ? Vous n'avez pas donné la date.
Celle de 2016, évidemment, celle de janvier prochain.
Vous reprenez cette... un primaire de droite,
pas moi.
Donc vous soutenez cette idée de remplacer en fait l'ensemble de certaines prestations par un revenu universel pour tous les Français.
Je vais le reciter, sa modestie va en souffrir, mais Christophe Sirugue, quand il était encore député, il y a quelques semaines, m'a présenté un rapport passionnant sur la refonte des minima sociaux. Je pense que l'un des grands débats à venir, c'est celui de la solidarité qui doit s'exercer pour ceux qui ont eu un accident dans la vie, ceux qui se sont retrouvés au chômage, dans la pauvreté. Je vous rappelle qu'il y a 7 à 8 millions de pauvres, de précaires dans notre pays. Je pense aussi, bien sûr, aux personnes en situation de handicap. Je pense
aux
personnes âgées qui ont leur propre
allocation. Les allocations personnes âgées, handicapées.
Personnes âgées qui vivent avec des toutes petites retraites, et nous en parlons souvent avec Pascal Boitard, la secrétaire d'État aux personnes âgées, aux retraités, qui est ici avec nous. Mais le grand débat va être sur le modèle social, la solidarité, comment nous le finançons face à ceux qui dénoncent en permanence l'assistanat, je mets des guillemets, qui serait celui de notre système de protection sociale, de notre modèle social, à l'égard de tous ceux que
vous
je viens de citer.
Vous pouvez expliciter un peu, ça veut dire qu'on aurait donc un revenu identique pour tout le monde, pour tous les Français, comme le propose Benoît Hamon.
Ce que
je
sais d'abord, c'est que la complexité alourdit, renforce les inégalités. Et donc, d'ores et déjà, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous allons vers la simplification, d'accord. C'est déjà particulièrement important. Et je pense qu'une prestation versée le plus automatiquement possible, nous le voyons d'ailleurs avec la prime d'activité, sans formalité lourde, ouverte à tous, y compris des jeunes de 18 à 25 ans.
Mais ouverte à tous, attendez, tous les salaires auraient un revenu universel ?
Englobant le plus largement possible, j'y viens, je réponds à votre question, la dizaine de minima sociaux actuels, prenant en compte aussi, bien sûr, le niveau de revenus, en expérimentant par département. D'autres pays le font. Regardez, la Finlande s'y est engagée. Moi, je crois beaucoup à l'expérimentation. C'est ce qui avait été fait avec le RMI, grande invention dans la ville de Besançon, avec le RMI et ensuite le RSA.
Et donc pour tous les Français depuis 18 ans, comme vous le demandez Olivier, ou pas ?
Moi, je pense que les 18-25 ans doivent être intégrés, vous savez, on a parlé de RSA jeune, peu importe le mot, mais doivent être intégrés, en effet, dans cette prestation.
Au même
prestation.
Niveau, ça serait une prestation unique. Et vous pouvez nous dire de combien elle pourrait être, cette prestation ?
Non, parce que...
C'est ce que Benoît Hamon disait, 500, 750, 1000 euros par mois.
L'objectif, d'abord, n'est pas de remplacer notre protection sociale, mais au contraire, de l'améliorer. Je dis ça parce qu'il y a ceux qui défendent, du côté des libéraux, une autre vision de ce revenu. Le revenu universel, c'est pour ça que je le défends, c'est le prolongement logique de notre action, ce que nous avons déjà accompli depuis plus de 4 ans, pour une protection sociale qui accompagne les ruptures. C'est pour ça que nous avons revalorisé de 2 ans,
les allocations existantes,
chaque année, le RSA.
Ça vient en plus.
Ça les renforce, ça les simplifie. Je pense au compte personnel d'activité, je pense à la protection universelle maladie, je pense à l'aide à la recherche du premier emploi, je pense à la simplification donc des minima sociaux et à la création de la prime d'activité, c'est-à-dire tout ce que nous avons engagé. C'est un chantier immense, de la même ampleur que celui du RMI, et ce débat, il s'ouvre. Je vous disais mon rôle, c'était d'être un Premier ministre engagé, chef de cordée, et en même temps libre d'ouvrir de nouveaux débats. Eh bien, le Parlement,
ça, c'est
aujourd'hui...
C'est votre présidentiel de Valls 2017, c'est ça ?
Mais c'est une plateforme présidentielle pour la gauche, oui. Moi, je crois à ce beau mot de Michel Rocard que je citais tout à l'heure, aux utopies concrètes. Je pense
en tout cas, c'est un projet pour la présidentielle.
Je pense que la gauche, si je reprends les beaux mots de Jaurès, c'est bien sûr le réel. Et le réel, j'en sais quelque chose comme chef du gouvernement.
Mais
c'est l'idéal. c'est l'espérance, alors, c'est ouvrir de nouveaux horizons. C'est quoi la gauche, je le disais tout à l'heure, c'est une morale, c'est une espérance.
Expérimentation justice.
C'est la République.
Expérimentation avant la présidentielle.
C'est la justice sociale. Parce que, bon sang, quand vous regardez ce que présente la droite, c'est la démolition du modèle social français. À quoi sont attachés les Français profondément? Bien sûr, à leur sécurité. Mais ils sont attachés à la lutte contre les inégalités, à la justice.
Très bien.
Ce pays n'est pas libéral au sens où il n'a jamais accepté des solutions injustes. C'est-à-dire aujourd'hui ce que leur propose
Monsieur le Premier ministre.
Olivier Mazerolle, aujourd'hui ce que leur propose la droite.
Je suis
désolé. Ce revenu universel, c'est un engagement, c'est un chantier, et ça sera l'un des grands débats, du moment. Vous savez, une proposition, un projet s'incarne bien sûr également à travers un homme ou une femme. C'est le rôle de l'élection présidentielle. Mais les grandes avancées dans le pays, ce sont de grandes avancées à travers des débats, des discussions, des propositions concrètes,
alors,
comme celles que j'engage.
Alors, pardonnez-moi de revenir essentiellement à la réalité et d'abandonner un peu l'espérance.
Non, mais c'est la réalité, parce que c'est la réalité que vivent des millions de Français.
Ces réalités-là, très bien, c'est comment on les finance. C'est-à-dire, adieu les 3%. Hein. Déjà, le budget présenté par le gouvernement est contré pratiquement par tous les experts, y compris le Haut Conseil des finances publiques. Et là, de nouvelles dépenses, donc déjà en vue. C'est-à-dire que, voilà, on traite le social et beaucoup moins l'économie. C'est la méthode française.
Mais je récuse cette analyse. Elle est fausse. Adieu les 3%. C'est-à-dire, le sérieux budgétaire. Le sérieux budgétaire, c'est pas ce gouvernement. C'est ce que proposent tous les candidats.
À la droite,
non,
monsieur.
La droite. Non. Ouais, vous savez, ce qui tue la politique dans ce pays, c'est ce type de commentaires et de phrases qui englobent...
Oui, mais le revenu universel, on peut le chiffrer à 400 milliards. On en a parlé avec Benoît Hamon il y a quelque temps ici.
Je ne dis pas que ça ne pose pas de problème de financement. Ça veut bien dire que la question du financement de la protection sociale devra être aussi examinée. Vous savez, il y a quelques années, moi, j'ai défendu une forme de TVA sociale avec mon ami Jean-Marie Le Guen qui est ici. Et donc, il faut être imaginatif. Moi, comme beaucoup de mes idées et de mes engagements se sont retrouvés dans l'engagement du gouvernement.
Ça y est, on a trouvé le financement, c'est ça ?
Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir faire preuve d'imagination. Ce sont des débats qui existent dans toutes les formations politiques et tout simplement dans la société et parmi les économistes et les experts.
C'est un coût colossal, votre revenu universel.
Mais on disait aussi la même chose pour le RMI et le RSA. Ce que je crois, c'est qu'il faut, dans un monde où il y aura moins de croissance, nous ne retrouverons pas la croissance, une croissance qui soit aujourd'hui écologique, durable, qui tienne compte aussi de ce qu'est la réalité de la vie de chaque citoyen. Nous ne vivrons pas avec une croissance de 3, 4, 5%. Nous vivons déjà, et c'est très, très bien, avec une croissance autour de 1,5%. Oui, écoutez, c'est déjà ça. Ça permet de créer de l'emploi. Ça permettra, moi j'en suis convaincu, de baisser le chômage. Mais je reviens à la question... ou aux commentaires
du
plutôt d'Olivier Mazerolle. Le Haut Conseil, il y a 2 ans, avait dit exactement la même chose.
Ah non, là quand même, il dit improbable, incertain, irréaliste. Enfin, il était
les
jamais, il
n'a
jamais
sont pas financées que cette année. D'autres qui sont reportées sur 2018.
Il se trompe. Nous avons fait la démonstration que nous respections nos engagements budgétaires, pas pour faire plaisir à la Commission européenne.
Bah elle n'est pas contente d'ailleurs, parce que Pierre Moscovici dit que ce n'est pas assez.
Mais parce que tout simplement...
Vous avez failli tacler, mais vous ne voulez pas...
Ah non, je ne vais pas tacler Pierre Moscovici, puisque nous en parlons...
Il dit la solution, c'est les réformes de structure.
Nous en parlons régulièrement, mais les réformes de structure, nous en avons fait beaucoup.
Il aimerait que la France respecte enfin les règles.
Non, mais là, il y a tellement de questions qu'on ne s'y retrouve plus. Là, vous allez perdre des auditeurs, Olivier Mazerolle, ça ne va pas du tout. Donc, des réformes de structure, nous en avons fait.
Écoutez, je lis Pierre Moscovici. L'Allemagne a rétabli ses comptes et fait reculer le chômage. La France vit avec un déficit accroché à plus de 3% et un chômage à plus de 10%.
Mais il a raison.
Cherchez l'erreur.
Mais il a raison. Il suffit de reprendre d'ailleurs mon discours de politique générale en avril 2014. J'avais vu ça.
Et depuis, vous avez gouverné 2 ans.
Nous nous sommes habitués à un chômage de masse depuis 30 ans. Et d'ailleurs, avec un vrai problème dans notre société. C'est d'ailleurs l'une des discussions que nous aurons dans le cadre du revenu universel. C'est-à-dire, au fond, on a privilégié plutôt ceux qui avaient un emploi au détriment de ceux qui étaient en dehors de la société. Et moi, je veux qu'on s'occupe de ceux qui sont en dehors de la société. Les chômeurs, les précaires, les femmes, les jeunes pas qualifiés des quartiers que j'ai représentés à l'Assemblée nationale. C'est de cela. Et si on est de gauche, si on n'est pas que des conservateurs, si on est des progressistes, si on est dans le mouvement, on s'occupe aussi de cela. Donc le sérieux budgétaire, il sera là, il sera au rendez-vous. Et nous serons, en 2017, en dessous de 3%. Mais je veux ouvrir un autre débat pour les années qui viennent. J'ai déjà eu l'occasion de le faire. Si nous considérons, les uns et les autres, qu'il faudra engager encore plus de moyens, parce qu'il y a la menace terroriste, parce que le monde est instable, et qu'il faut donc donner plus de moyens à la police, à la gendarmerie, sans doute un milliard et demi sur un quinquennat.
On ne pourra plus respecter qu'il faut, les 3%. Vous qu'il faut donner, la droite, finalement.
Qu'il faut donner, je n'ai pas dit cela, qu'il faut donner plus de moyens à la justice, parce que nous ne pouvons pas accepter la situation des prisons. 3 milliards sur les 10 ans qui viennent. Qu'il faut atteindre les 2% du produit intérieur brut pour la défense. Parce qu'à partir du moment où nous avons beaucoup d'opérations extérieures, au Sahel, en Afrique, aujourd'hui au Levant, et notamment avec notre porte-avions Charles de Gaulle, mais aussi, bien sûr, nos Rafales et nos Mirages, tout cela, l'opération Sentinelle, 10 000 hommes engagés sur le sol national. Si nous considérons que l'avenir d'un pays aujourd'hui, c'est son éducation, c'est sa recherche, son innovation, son université, et qu'on peut, on en parlait avec Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon, c'est sans doute pour un quinquennat 1,5 milliard supplémentaire pour l'université, la recherche et l'innovation, mais qui doit par ailleurs être ouverte aux entreprises, au secteur privé, bien évidemment. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Ça veut dire qu'il faudra faire des choix. Ça veut dire qu'il faut aussi.
À quoi faut-il renoncer?
Ça veut dire qu'il faut aussi une discussion avec la Commission européenne.
Voilà, vous êtes en train de nous dire 3% c'est fini.
Non, je ne dis pas cela. Je dis, notamment avec la Commission européenne et avec d'autres pays, que les dépenses de sécurité, c'est un débat qui a lieu entre les chefs d'État et le gouvernement. Il faudra les sortir, je le dis d'autant plus comme chef du gouvernement français, d'un pays qui assure, qui assume ses responsabilités et d'une certaine manière assure la sécurité, pas seulement de la France, mais de l'Europe. Quand nous intervenons au Mali, quand nous intervenons au Sahel, quand nous intervenons en Irak et en Syrie, nous ne le faisons pas pour la France. Alors, nous le faisons pour la paix et la sécurité dans le monde, mais nous le faisons aussi pour l'Europe. Donc, le sérieux budgétaire qui caractérise ce budget, la baisse des impôts pour les classes moyennes et populaires, parce que les impôts ont trop augmenté. À la fin du quinquennat,
35 milliards
à la fin du quinquennat,
il nous reste 4 minutes avant
la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais je termine, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et au début du quinquennat de François Hollande. Financer nos priorités, baisser les impôts, accomplir le sérieux budgétaire, ouvrir bien sûr les voies de l'avenir. Et je pense que ce budget, moi je le demande aux parlementaires de la majorité, il y en a beaucoup ici, qu'ils s'engagent pleinement, qu'ils soient fiers de ce que nous avons accompli et des perspectives que nous ouvrons. Et que enfin nous ouvrons le débat avec la droite, parce que quand la droite propose de supprimer de 100 000 à 500 000 fonctionnaires, je veux qu'elle nous dise, parce que c'est ça la transparence et la démocratie, où c'est quoi? C'est moins d'enseignants, moins d'infirmières, moins de policiers, moins de gendarmes, moins de fonctionnaires.
Alain Juppé dit aujourd'hui, voilà, moi je propose mon programme, les électeurs pourront choisir en toute connaissance de cause.
Très bien, mais il a parfaitement raison. Moi je respecte beaucoup Alain Juppé, donc c'est une vraie vision de la démocratie. Mais donc du coup, qu'il explique où il va supprimer les fonctionnaires, où il va prendre ses économies budgétaires.
Ah ben, il dit retour à 65 ans à la retraite, les 39 heures dans les entreprises.
C'est-à-dire que nous, on va avoir un double système. On a déjà durée de cotisation pour la retraite est parmi les plus longues d'Europe, plus la retraite à 65 ans. Il nous propose des recettes en moins, la suppression de l'impôt sur la fortune, une fiscalité toujours plus favorable à la rente et au patrimoine, la précarisation du monde du travail, la suppression du compte pénibilité, qui est un des combats importants, notamment
là,
de la
campagne,
CFDT,
oui,
les allocations de chômage conditionnelles, la limitation du RSA.
Vous avez changé de pari sur le gagnant de la primaire de la droite, là.
Non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne suis pas un électeur de droite.
D'ailleurs, l'électeur de gauche, est-ce qu'il doit aller voter à la primaire de droite?
C'est aux électeurs de droite.
Pour avoir le bon candidat de droite.
Au début de notre discussion, je vous disais, ça y est, l'élection présidentielle est jouée, et celui qui sera désigné à la primaire de la droite, il peut déjà s'installer à l'Élysée, après-demain, et les électeurs de gauche vont devoir aller partager Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Franchement, relisez les éditoriaux de certains journaux, toujours très prompts à donner des leçons à gauche, en 1995, qui expliquaient qu'il n'y avait pas besoin d'élection présidentielle et qu'Édouard Balladur était déjà élu président de la République.
Qu'est-ce que vous dites aux électeurs de gauche? Ils doivent y aller voter à la primaire de droite?
D'abord, pardon, hein, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent.
Oui, mais enfin, c'est la primaire. Ils doivent signer un engagement pour l'alternance.
C'est la primaire.
S'ils y vont.
Mais excellente remarque, Olivier Mazerolle. Parce qu'il faut non seulement adhérer aux valeurs de la droite
et du centre.
Et du centre. Enfin, quand j'entends Nicolas Sarkozy, j'ai parfois un problème avec ce qu'il défend, comme valeur, si je puis dire. Il faut être pour l'alternance. Et il faut surtout être pour ce programme que je viens de détailler rapidement, qui est porté, autant il y a des différences incontestables entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sur la vision de la République et sur l'apaisement nécessaire dans, dans notre société. Mais sur le plan économique et social, c'est brutal. Et avec une remise en cause qui m'inquiète de tous les corps intermédiaires, des partenaires sociaux, du monde associatif. Vous savez, j'étais l'autre jour au congrès des HLM. C'est une force hein, dans notre pays, hein, le logement social. Et ça va plutôt dans
donc
le bon sens.
Donc vous leur dites, n'y allez pas.
Donc je leur dis, mobilisez-vous et votez à l'élection présidentielle pour que la gauche du gouvernement, la gauche sociale réformiste, la gauche qui incarne la République ferme et bienveillante, oui, soit présente, parce que je pense que le pays a besoin de cette gauche
et
pour
l'avenir. Et votez pour moi au primaire de la gauche, vous leur dites.
Alors. Et je n'ai pas compris votre question.
Et vous leur dites aussi, votez pour moi au primaire de la gauche.
Vous me ramenez à ça. Non, non. J'ai essayé dans cette émission d'être sérieux,
une question,
d'éclairer l'avenir, d'être combatif.
Il nous reste 2 minutes 30. Une question sur l'immigration. Christophe, Jacobici.
Peut-être sur Calais, effectivement. Sur quand allez-vous enclencher ce plan démantèlement
et... Sur les prochaines semaines, mais c'est évidemment Bernard Cazeneuve qui se trouve dans ces moments-là d'ailleurs aux Antilles, parce que nos compatriotes, et en Guyane, parce que nos compatriotes des Outre-mer ont besoin aussi de la solidarité nationale. C'est Bernard Cazeneuve qui suit ça très attentivement. Il s'agit quoi ? Il s'agit de relocaliser 7000 à 9000 personnes, réfugiés, 80% pour la plupart des cas.
Bien sûr, c'est 80% de réfugiés politiques qui, a priori, ont droit à un asile politique.
Je le crois. D'accord. Syriens, mais... érythréens. J'étais l'autre jour à Épernay. J'ai visité un centre d'accueil et d'orientation. Quelques dizaines de personnes, encadrées par un des organismes, un des opérateurs qui a une vraie expérience dans ce domaine-là, au DOMA, avec des travailleurs sociaux... qui font un travail de très grande qualité. Donc Bernard Cazeneuve, Emmanuel Coss, le gouvernement, les préfets sont mobilisés. Moi, je souhaite que cette répartition, cette relocalisation, puisse se faire...
Vous voyez que ça suscite de l'hostilité. Vous parliez d'alliance tout à l'heure.
Oui, mais puisse se faire...
Quand le Secours populaire veut organiser des repas pour les immigrés, le maire dit... Front National
dans
dit
il faut expulser
le Secours populaire. Et dans la Drôme, le maire voulait organiser un référendum
Olivier
municipal.
Je comprends les inquiétudes de nos compatriotes, de nos concitoyens. Je peux comprendre l'inquiétude des maires. Donc il faut expliquer, il faut des petites unités pour tout simplement faire en sorte que, grâce au travail notamment de l'OFPRA et des associations...
Mais on peut se passer de l'accord des maires ?
Chacun des cas soit examiné. Ceux qui ont droit à l'asile ont droit à ce statut de réfugié. Ils restent en France. Ils devront bien sûr apprendre nos valeurs, apprendre surtout le français. J'ai fait l'autre jour à Épernay, j'ai la connaissance d'une jeune érythréenne, une famille incroyable, avec une maman qui apprend le français, et 3 enfants qui sont scolarisés. Une jeune fille qui est, je crois, en première ou en terminale, qui a envie de faire sa vie en France. Mais bon, écoutez, la France, c'est ça. Je lui disais que moi, né à Barcelone, que mon père a quitté l'Espagne après la guerre mondiale pour aller vers ce pays, la France, qui lui donnait possibilité de mener sa mission d'artiste. J'étais naturalisé. Je suis Premier ministre. C'est ça, la France. Donc, jeune fille, elle a le droit, mais ça doit être maîtriser. Si, un dernier mot. En revanche, les campagnes d'une partie de la droite, je pense à M. Wauquiez, les campagnes de l'extrême droite, organisées avec des éléments de langage bien précis, pour créer la discorde, la confrontation. Et moi, je pense, Olivier Mazerolle, et je le répète, alors que la droite est dans sa primaire, que la gauche est déjà dans sa primaire, ou avec ceux qui pensent qu'il faut empêcher François Hollande d'être candidat, on oublie l'élément essentiel. L'extrême droite. Et là aussi, je vous ai parlé de ma propre mobilisation pour défendre le bilan et pour éclairer l'avenir. Et moi, je veux me battre de toutes mes forces. Et je pense que la gauche doit faire attention. Elle est en train d'oublier que le danger pour notre pays, pour l'Europe, pour nos valeurs, cette Europe dont nous n'avons pas parlé ce matin, ce midi, mais c'est l'extrême droite. Et il est temps de se mobiliser. Et ce qui se passe à Yange et dans certaines villes montre le vrai visage de l'extrême droite, qui n'est en rien populaire, qui n'est en rien apaisant, qui est un visage de discorde et qui vise à briser la France.
Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être venu nous voir ce matin avec Alexis Boiset du Figaro, Christophe Jacobicine de LCI. Ce grand jury sera retransmis intégralement à partir de 18h30
sur
LCI.
Je vous regarderai.
Voilà, comme ça vous pourrez voir comment vous vous défendez. Bon après-midi à tout le monde.